ce qu'il faut se lever.
Pour toujours être bien informé, jusqu'à 10h, vous écoutez « Puisqu'il faut se lever » avec Paul Arcan.
6h04, mercredi 9 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Une autre très belle journée en vue, c'est-à-dire du soleil 17 degrés avec des vents modérés. Ce soir, ça se couvre un peu plus, 9 comme minimum pour la nuit prochaine. Et pour demain, jeudi, là, c'est davantage les nuages qui vont dominer, toujours autour de 16 et 17 degrés, pardon, et du temps nuageux même en soirée. Pour ce qui est de vendredi, pour terminer la semaine, on prévoit du temps couvert et encore là, température stable autour de 17 degrés. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques secondes pour revenir sur les événements de hier, que ce soit le blocage du pont Jacques-Cartier ou la perturbation qui a amené des bouchons de circulation au centre-ville, en un mot, des stratégies qui n'ont fait qu'écœurer les citoyens. Je comprends qu'il faut être patient avec des manifestants, là, mais est-ce que ça veut dire que 200 personnes peuvent, pendant des heures, bloquer le cœur d'une ville? Là, on ne parle pas d'une marée humaine, là. On parle de 200 personnes qui s'assoient dans le milieu de la rue, comme disait Philippe, qui récite des poèmes, avec l'avocat pas loin, et avec l'espoir de se faire arrêter pour jouer un peu à la victime. C'est un classique. On a une police très patiente. Je ne dis pas qu'il faut les assommer, mais si la police ne peut pas venir à bout et ouvrir le centre-ville, parce que 200 personnes... Puis là, qu'on pense qu'on va les avoir par l'épuisement, puis qu'il y en a qui vont quitter, ils vont être une centaine, ça va être moins compliqué. J'espère que ce matin, aux abords de Jacques-Cartier, il y a de la police en masse. Pour pas que ça recommence. Parce que là, il y a une autre action de planifier au Mont-Royal. Sérieusement, je pense que ces extrémistes verts, puis là, je ne veux pas faire un jeu de mots plate, là, mais ils n'ont pas réalisé qu'ils mettent les gens en calvaire, les verts, quand ils font ça. Parce que je regarde, puis des gens là qui sont sensibles et qui n'en reviennent pas, là. Je reçois, je ne sais pas combien de courriels depuis hier de gens qui me disent « Monsieur Arcan, là, c'est quoi l'idée, là? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? » Tu sais, quand tu dis « Écoute, ça fait 2 semaines la manif, puis il n'y a pas de changement, tu t'attends à quoi? » Est-ce que le gouvernement Legault est un gouvernement préoccupé par les questions environnementales? La réponse est oui, mais en façade. On est d'accord. Le ministre Benoît Charrette n'est pas très, très convaincant quand il nous explique qu'un tunnel, ça va aider parce que ça va générer de l'argent pour éventuellement financer des projets structurants pour baisser les gaz à effet de serre. On le croit pas bien, bien, là. T'sais, c'est pas très crédible quand tu dis quelque chose comme Maxime Bernier qui se présente comme un candidat presque vert ou plus vert que les autres. Il faut pas charrier dans les images. Mais Dominique Champagne, qui a réveillé pas mal de gens, pas certain que c'est la bonne stratégie d'aller dire que faut les comprendre, puis c'est normal, puis c'est comme Québec solidaire. T'sais, est-ce que c'est surprenant? Non. Mais là, on comprend que Québec solidaire est d'accord avec la désobéissance civile, est d'accord avec ses gestes pour écœurer l'ensemble des citoyens, des gens qui travaillent, des gens qui ont des rendez-vous, des gens qui ont une vie à vivre. Et sérieusement, là, on sait que la semaine n'est pas terminée puis que le plan de ce groupe, c'est de faire des actions sur 2 semaines. Alors là, je ne sais pas quelle est la stratégie policière. Est-ce qu'on a renforcé la sécurité près des abords, en fait, aux abords des ponts. J'espère pas qu'on se ramasse avec un autre zoo, soit demain ou encore vendredi. Bon, voilà pour ce dossier. Maintenant, il y a une bonne nouvelle ce matin, puis on va la détailler tantôt, puis je pense que c'est important d'en parler. Il y a un traitement fantastique qui vient d'être acheté par Québec. C'est une thérapie cellulaire, puis je vais essayer de garder ça simple. On va recevoir un docteur tantôt pour nous donner plus de détails. Mais en gros, c'est une thérapie cellulaire et ça s'adresse à des gens qui ont certains types de cancers. On peut penser à une forme de leucémie, également des lymphomes et des cancers pour qui les traitements n'ont pas donné beaucoup de résultats. En gros, ce qu'ils font, ils prélèvent une partie des globules blancs, une variété, là, si on veut, et on envoie ça en traitement aux États-Unis, ça revient après, puis on injecte ça aux patients. Et semble-t-il que les résultats sont étonnants. Alors, je pense que c'est important de souligner des traitements qui sont offerts dans deux hôpitaux, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et également l'hôpital Sainte-Justine. Maintenant, parlons un peu de l'industrie du taxi, parce que on sait qu'il y a des amendements encore qui ont été présentés hier soir. Le premier ministre, M. Legault, a dit « si on n'a pas la collaboration des partis d'opposition, ben on va passer le baillon ». Alors, en un mot, Québec a dit « nous autres, on met de l'argent sur la table, il n'y en aura pas plus, puis pensez pas nous poursuivre après l'adoption du projet de loi ». Un. Deux, on va vous rembourser ou vous payer un peu plus vite que prévu. Et on a mis quand même des dispositions pour protéger le taxi conventionnel, que ce soit pour le transport adapté ou encore pour les voitures qui sont sur des postes ou d'aller comme ça prendre un client qui lève la main sur la rue. Évidemment, les chauffeurs de taxi trouvent que c'est passé. Plusieurs m'écrivent, m'ont envoyé toutes sortes de documents. Et un des enjeux, c'est toute la notion de quota. Parce qu'une fois que tu as déréglementé l'industrie, qu'est-ce qui dit que demain, il n'y a pas un autre joueur qui va arriver avec 200 voitures, 300 voitures, et que ça va venir s'ajouter. Et donc, que ça va faire en sorte qu'on va avoir une compétition, si on veut, déloyale. C'est sûr que les chauffeurs de taxi retrouveront pas les sommes investies ou les sommes anticipées. Ça, c'est clair. Ça arrivera pas. Et Québec dit, nous autres, on a mis le maximum, vous n'aurez pas une scène de plus. Et est-ce qu'on pourrait faire comme New York? Je lance ça, c'est-à-dire plafonner ce qui existe. Et là, je parle de taxi conventionnel, je parle de Uber, je parle de Lyft. Il ne peut pas y avoir plus à New York que ces voitures, ces permis qui existent, ou en fait, cette reconnaissance plutôt qui existe. Et s'il y a un chauffeur qui s'en va, bien là, il peut être remplacé. Alors, tout ça pour qu'il n'y ait pas, évidemment, une surabondance. Pourquoi on est arrivé là? Les taxis jaunes, taxis traditionnels, étaient assez indépendants. Est arrivé Uber, c'est venu chambarder. Et quand vous voyagez un peu, que vous allez, par exemple, à New York, c'est un vendredi soir de pluie, trouver un taxi jaune, il y a quelques années, c'était impensable. C'était compliqué, c'était... Uber est arrivé. Et qu'est-ce que vous voulez? L'offre s'est multipliée. Et puis, ben, ça s'est fait rapidement. Et il faut dire que là-bas, c'est très, très encadré aussi, Uber. Et moi, je pense que l'industrie du taxi à Montréal a besoin de se poser pas mal de questions. Hier, je me suis amusé à tester deux applications. Théo, marche pas pantoute. Puis l'autre, c'est Taxi Diamond. Pas facile. Alors, je sais pas s'ils ont des problèmes de logiciel actuellement, mais c'est pas très convivial, ces applications. Et je vous le dis, je prends souvent le taxi, puis je parle avec les chauffeurs, puis il y en a qui sont vraiment déterminés, puis qui veulent faire un ménage dans l'industrie. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui se traînent les pieds. Mais tu sais, quand tu vas avoir un taxi, comme me disait un auditeur dans un courriel il y a quelques jours, puis tu as beau appeler, puis tu as beau essayer, puis on t'explique qu'il n'y a pas de voiture disponible, bien là, tu te tannes parce qu'il y a une autre option qui existe. 6h12, en parlant de voitures, comment ça va sur le réseau?
Ben, il y a évidemment du retard. Autour des Laurentides, premier secteur à problème, c'est au niveau de Saint-Janvier. Ensuite, Blainville jusqu'à Curé-Labelle. Pour le reste de Laval, c'est bien. Mais à Montréal, près d'Henri Bourassa, à nouveau, il y a réduction de la vitesse. 13 Sud sur 640 S 25e. On repart à la rivière des Mille-Îles. Réduction de la vitesse à nouveau à partir de Dagenais. Même congestion parce qu'il y a eu accident sur la pointe d'accès là, pour la pointe de la bretelle d'accès pour la 440. Ça implique une voiture et un camion. 25 Terrebonne à la 640, 40 Repentigny un peu avant Brien. Métropolitaine Ouest, plutôt bien. On réduit surtout à l'autoroute des Laurentides. La rive sud, ça s'installe au pont Honoré-Mercier par l'accès 132. Pont Samuel de Champlain, c'est encore après Tachereau, ce qui est bien. Les autres traversées, ça va. L'essence à Montréal, 1,22 $. Le métro fonctionne correctement. Train de banlieue, il y a une quinzaine de minutes de retard pour le premier train de la ligne Saint-Hilaire. Par contre, le train est parti et les autres trains ne seront pas affectés selon ce que j'ai comme info.
Très bien, on va survoler les autres nouvelles. D'abord, la campagne électorale. Vous dire que le chef du NPD, Jack Meat Singh, sera avec nous 7h20 ce matin. Et on a lancé l'invitation aux autres chefs, bien sûr. Yves-François Blanchet l'a accepté, Maxime Bernier. Pas de nouvelles de M. Trudeau et de M. Scheer non plus. Réponse qu'on reçoit, c'est du genre « Vous êtes encore sur la liste, mais on ne sait pas si on a du temps. » Alors, nous autres, notre job, c'est d'offrir au chef de venir, puis il décide ou pas de donc se présenter pour une entrevue. Toujours concernant la campagne électorale, le Journal de Montréal continue de calculer les promesses de l'ensemble des partis. On est rendu à 188 milliards. Tout parti confondu. Alors, des engagements sur des bourses d'études, sur des fonds d'aide à la catastrophe, sur les prestations de maladie de l'assurance-emploi. M. Singh, lui, a également une série de mesures, de projets. Alors, disons que ça fait pas mal. Alors qu'au même moment, ce qu'on nous explique, et je voyais ça ce matin, puis ça fait un bout de temps qu'on en parle, là, c'est le Fonds monétaire international qui dit noter un certain ralentissement économique et que tout ça est en train de se synchroniser à l'échelle de la planète. Alors, on est dans une période, puis regardez un peu les marchés depuis quelque temps, beaucoup d'instabilité, c'est assez volatile. Et là, ce qu'il semble vouloir dire, c'est que l'économie mondiale va sans doute connaître une récession. Pas une crise majeure, pas un effondrement, mais les indicateurs, là, quand tu regardes le tableau de bord, ben c'est là que tu te rends compte qu'il y a assez d'indices pour penser que l'économie va tourner au ralenti. Lucien Bouchard, il y a également Daniel Lamar, qui est le PDG du groupe du Cirque du Soleil, et Louis Vachon, de la Banque nationale, qui signe une lettre ouverte en disant qu'ils sont d'accord avec une équipe de baseball à Montréal et demandent à la ville de ce qu'on appelle prendre un terrain, de mettre un terrain de côté pour justement qu'on puisse aménager un stade et toutes les infrastructures qui vont avec. Et c'est intéressant, c'est une lettre ouverte, donc vous pourrez lire ça dans la presse ce matin. Pourquoi? Parce que M. Bouchard, et c'est drôle, j'en parlais hier avec Serge Chavard, alors qu'ils avaient convaincu, en fait, presque Bernard Landry, d'une aide gouvernementale pour sauver les expos. M. Bouchard avait dit non. C'était à l'époque du déficit zéro, avec des coupures en santé, en éducation. Et Bouchard avait dit, on ne peut pas d'un côté demander l'austérité puis de dire aux gens, serrez-vous la ceinture, puis donner un coup de pouce financier à un club de baseball. Sur cette question-là, M. Bouchard ne se prononce pas. Il dit que, mettons un terrain de côté tout de suite, parce que ça va se faire, puis il souhaite que ça se fasse. Et ce sera par la suite aux promoteurs, donc, au groupe de propriétaires éventuels, de dire comment le financement va se faire, quelle est la part du privé, ils s'attendent à quoi du public. Puis là, on pourra avoir une discussion là-dessus. D'autre part, avec la Ville de Montréal, il y a un certain nombre d'enjeux aussi. Et je regarde ce matin, c'est dans Le Devoir, on sait qu'il y a un promoteur, en fait, des promoteurs dans l'ouest de l'île avec le mégaparc qui a été créé, qui poursuivent en disant ça fait des années qu'on est en train de développer le coin, qu'on a des projets pour le coin, puis là, vous décidez que c'est un parc et on va perdre une fortune là-dedans. Là, c'est un autre promoteur et c'est celui qui a récupéré le Montreal Children. Ça s'appelle HRM Projet Children. Et la ville s'apprête à réduire, tenez-vous bien, de 20 à 4 le nombre d'étages autorisés pour la tour 6 de ce projet. Et également, un des éléments litigieux, comme c'est souvent le cas, c'est l'inclusion de logements sociaux dans le projet. En disant, on vous donne le permis, mais vous devez vous engager à aménager tant de logements sociaux. Puis moi, j'ai vu des endroits à Montréal où on a aménagé des logements sociaux, mais complètement différents du projet de construction ou de l'aménagement principal. Tu sais, exemple, tu construis des condos, puis après ça, tu fais comme une espèce d'enclos pour les pauvres. Tu dis là, tu ne viendras pas te mêler avec les autres. Là. Tu sais, les autres, ils payent un prix pour un condo, fait qu'ils ne sont pas intéressés à avoir des gens, hein, des pauvres dans le secteur. Fait que oui, il y a des espaces réservés, mais disons que c'est assez clair que ce n'est pas tout à fait la même catégorie de locataires dans ces coins-là. Alors, c'est dans Le Devoir que vous retrouvez ça. Aussi dans Le Devoir, des infirmières qui disent que les expériences, les projets pilotes des nouveaux ratios infirmières-patients ont été un succès. C'est sûr que ça doit être un succès, c'est-à-dire que les patients se sentent mieux, les infirmières sont moins débordées. La question, c'est comment tu fais pour attirer des gens vers le réseau de la santé de façon plus globale pour justement atteindre aussi, si on veut, ce ratio qui, on le souhaite, donne des résultats. À Repentigny, la mairesse Chantal Deschamps, j'ai eu beaucoup de courriels. Je ne sais pas ce qui se passe à Repentigny, là. Je comprends que toutes les villes peuvent avoir des enjeux entre les minorités et la police. Et là, on peut penser au rapport du SPVM. Mais à Repentigny, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Puis là, la mairesse a demandé de revoir les cas de plainte, les interceptions, comment ça s'est fait, pourquoi les gens ont été ciblés. Et dans le rapport du SPVM, encore là, beaucoup de messages de policiers qui disent, tu sais, il y a des exemples qu'il faut éclaircir, là. C'est vrai qu'il y a plus d'interpellations qu'avant. Si tu décides d'interpeller puis de travailler les gangs de rue comme Eclipse, bien, ça se peut que les minorités soient, disons, plus en évidence. Si tu travailles les motards, ça se peut que les Blancs soient pas mal plus en évidence. Alors, c'est... faut, je pense, documenter ça plus. Est-ce qu'il y a des policiers qui vont écœurer des gens parce qu'ils sont noirs? Ça se peut. Probablement que oui. Puis des gens qui me disent, M. Arcan, c'est 5-6 fois que je me fais intercepter. La question, c'est est-ce qu'il y a des interceptions qui sont arbitraires et injustes? La réponse est également oui. Puis il y a des fois, tu travailles quelqu'un. Alors, disons que le rapport comme tel, sans nier une certaine réalité, je trouve que ça manque de documentation. Puis savez-vous quoi? Ce qui est étonnant, c'est que ça ne soit pas plus documenté que ça, compte tenu que ce n'est pas un problème là, qui est récent. On aurait dû avoir ces données-là il y a quand même un bon bout de temps. Un mot sur le procès à Terrebonne de M. Robitaille et de ses petits amis. Alors, un témoin hier qui est venu raconter que c'était clair, qu'on devait partager les contrats. Il y avait deux firmes. Il y avait l'ancien Terrebonne puis les municipalités fusionnées. C'est les contrats, là, tu comprends, pas trop compliqués. Des petits montants, mais importants. Puis à chaque fois, bien, on sait que c'est un tel qui va l'obtenir. Donc, des contrats qui varient entre 25 000 et 100 000 $ Puis bien, pour ça, tu as du cash. Puis un petit voyage de pêche avec Jean-Marc, puis avec des autres membres de la ville. Puis c'est le bonheur. Puis ils sont allés dans des pourvoiries, Vegas. Alors lui, il dit que la directive était absolument claire. Tout ça est arrivé, donc, après... les fusions municipales, et le procès va évidemment se poursuivre. Ça fait pas mal le tour de nos manchettes ce matin.